Voilà,
Et
merci.
nous, on va aussi utiliser la taille des cases aussi pour un espace émotionnel, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas utiliser cette idée de temps aussi pour la mettre au service de ce que ressent le personnage. Et par exemple, tu vas arrêter à un moment donné ta lecture pour que là, on se pose la question qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour faire rentrer le lecteur dans le personnage. Donc, nous, il y a une. C'est là d'être des règles un peu de ce que je vous dis, mais nous on n'en parle jamais comme ça, parce qu'en fin de compte il faut au contraire plus faire confiance à son instinct et à ses sentiments, si je peux dire, pour, si tu veux, utiliser toutes ces choses-là dans le ressenti, parce que c'est plus compliqué, il y a plus de choses à mettre en œuvre quand tu fais évoluer un personnage dans un espace ou quand tu fais parler des personnages ensemble que le temps, quoi, que le. Il faut faire confiance à ce qu'on ressent, quoi.
Mais en plus, en BD, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il se passe des trucs entre les cases, au fond. Enfin,
l'ellipse, c'est hyper
important. Les ellipses, il se passe des choses entre les cases. Alors que cinéma, non, c'est vraiment dans la continuité où il y a des ellipses entre les séquences, mais alors que là, c'est quelque part, on imagine en BD ce qui se passe entre les cases. Quoi. Ce qui crée un.
Ouais, c'est ce qui n'est jamais montré qui est parfois le plus important. Il y a une question célèbre sur les lecteurs de Tintin. Il y a une scène qui n'existe pas, que tout le monde raconte, qui est le moment où le capitaine Haddock tombe quand il monte, il court, il va prendre un avion, il monte
l'escalier
mécanique pour aller en avion. Et en fait, il y a une grosse ellipse, on le voit monter, machin, et après on le voit avec un pansement sur le nez. Et en fait, tout le monde avait vu, ou se l'a imaginé tomber, mais cette case n'existe pas. Il y a vraiment. Alors lui, il a fait des raccourcis extrêmes entre
les deux. Mais ça, alors évidemment, ça va parler que principalement aux personnes qui ont vu le Sacre du Printemps qui est passé hier, donc ici. Donc en fait, c'est les planches qui sont votre style, avec des personnages sans visage, avec des postures de corps extrêmement précises. C'est des batailles de rue, en fait, très curieuses, avec... On a juste la musique du Sacre du Printemps, et puis ces planches qui se succèdent, c'est pas animé. Et là, pour le coup, il y a des ellipses de noir, de temps en temps. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait, pourquoi, d'où ça vient? Pourquoi, quoi?
Alors juste pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, le Sacre du Printemps, c'est des images filmées, c'est-à-dire que c'est des images arrêtées, c'est des dessins qu'on a montés, en fait, comme une sorte de diapo, mais voilà, qui sont montés... en adéquation avec la musique. Et au début du film, si tu veux, on fait par exemple des dessins de Paris, des décors, et on met le son de la ville, et en fait on installe un petit peu une timeline, c'est-à-dire qu'en fin de compte, grosso modo, on dit, on fait une sorte de pacte avec le lecteur où on dit, quand il y a un dessin qui est montré, il y a du temps qui passe dans ce dessin-là. Ce truc de son n'est pas directement pour en fin de compte laisser la place à uniquement la musique. Et voilà, et là on fait notre chorégraphie du Sacre du Printemps. Et c'était quoi la... Ah oui, le noir, pardon. Et bien le noir, si tu veux, c'est qu'on utilise la violence. Le Sacre du Printemps, c'est l'histoire d'un groupe de femmes, un groupe d'hommes qui dansent, une chorégraphie, et grosso modo, ils prennent une vierge et ils la sacrifient au dieu du printemps. Tous les chorégraphes du siècle dernier, ils l'ont tous fait quasiment.
Mais t'as deux groupes qui voilà. Antagonistes.
À chaque fois, t'as un groupe de danseurs hommes, un groupe de danseurs femmes, etc. Nous, on a voulu faire de la danse, on a voulu faire de la chorégraphie, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné les gens dehors, et grosso modo, on fait Paris qui devient taré, où t'as les hommes qui vont se mettre à taper sur les femmes qui vont se rebeller, et au bout d'un moment, en fait, on a juste une guerre homme-femme qui va dans. Voilà, après, c'est la guerre, quoi, c'est la guérilla.
Il y a des trous noirs. En fait.
Alors les trous noirs, si tu veux, on cherche encore une fois à des fois à juste te laisser trouver d'utiliser toi ton imagination pour te laisser compléter si tu veux ce qu'il n'y a pas.
C'est le moment où les images, l'absence d'image est plus fort que n'importe quelle image. Donc, c'est des moments entre des images, tu peux pas faire mieux que pas mettre d'image. Enfin, tu pouvais pas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tire sur quelqu'un, tu pouvais pas montrer sa tête, ta tête explose, quoi. T'es obligé de Mais alors que tout le monde a compris que sa tête allait exploser, c'était bien de ne pas le montrer, de passer à autre chose. Enfin, c'est un cas en particulier. Mais...
Et puis il y a un truc de trait aussi, on va plus, on se rapproche du trait et on voulait un peu situer ce genre de cette image aussi où tu te retrouves avec la trace du film, le cinéma. Ce truc d'hyper physique, tu vois, c'est hyper animal comme médium, c'est vraiment on utilise ton arc réflexe, tu vois, mais on n'utilise pas que ton cerveau, tes émotions, tes sentiments, on va aussi utiliser toi l'animal qui a peur quand il passe devant une voiture et qu'il est éclairé par les phares, tu vois. Et bien on veut aussi jouer avec ce truc un peu physique du cinéma où là on pouvait le mettre au service du dessin, quoi.
Oui, pour le coup c'est ultra frontal, quoi. En plus, il y a le synchronisme entre la musique et vos images qui est évident. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas triché avec ça, vous êtes à la mesure près, quoi. Donc, du coup, à chaque fois, le choc est vraiment redoublé. C'est... Voilà.
Boyana, si tu veux bien faire défiler les planches, c'est juste pour illustrer un peu votre manière de travailler. Voilà, donc là, on revient, on est toujours à la grande odalisque avec pareil... La durée qui est très très. Enfin oui, c'est vrai que la taille de la case et la durée. On a aussi une notion de. Alors oui, il y avait aussi le travail du bruit dont on avait parlé rapidement. Je ne sais pas s'il y a des planches qui l'illustrent vraiment.
En fait, on peut chercher sans. Tu vois, parce qu'en fait, il n'y a pas d'onomatopée.
Non, mais justement, il n'y a pas. Donc voilà, fait pause, Boyana. Donc expliquez-nous comment vous faites pour. Donc du bruit dans la BD, évidemment, il n'y en a pas. Sauf que des onomatopées, il y en a dans Tintin, il y en a plein dans Franco-Belge, il y en a plein dans les comics. Hein, les whoosh, les splash, tout ça, voilà, c'est un effet de style. Et vous vous donnez comme contrainte de surtout pas faire ça.
Alors c'est pas une contrainte, hein. Ça s'est fait naturellement, je crois, au fur et à mesure. En fait, ça tient au fait que quand tu lis une BD, tu deviens acteur de tes personnages. Genre quand tu lis un texte, il faut que tu fais en sorte que les personnages disent les paroles avec un bon jeu. Tu dois leur faire dire le texte comme il est dit. Et par exemple, quand toi tu fais ta bande dessinée, tu vas, par exemple, s'il y a une porte qui claque, ton genre, tu l'entends. Donc tu entends le bruit de la porte qui claque, tu vois. Et tu vas le traduire avec des mots, tu vois, ça ressemble à je blâme, tu vois, ça fait genre je blâme. Et donc tu vas écrire S-C-H-B-L-A-M-M-M-M, tu vois, si tu veux, c'est je blâme. Mais donc le lecteur, il lit je blâme. Déjà lui, à mon avis, il n'arrivera pas à faire que ce je blâme-là soit le même que le je blâme de celui qui l'a dessiné. Et ça sera encore moins, en fin de compte, le bruit de la porte. Donc là, je peux pas vous limiter parce que ça s'imite pas en fait. Tu vois, si je vous le fais avec des mots, c'est pas le même son. Et donc en fait, on se retrouve avec des ellipses, des claques, des cheveux, tu vois. Ou en fait, c'est juste, tu es en train de lire avec. Tu es en train de lire un texte avec. Où tu imagines en fait l'auteur de BD faire tous les bruits avec sa bouche de tous les sons. Tu es en train de le faire. Il fait le son avec sa voix de son petit film. Donc nous, on préfère le virer parce qu'en fait, on trouve que ça marche pas. Et laisser le silence apparent, et en se disant, genre, ben voilà, par exemple, là, on a fait une scène, on a dessiné une scène il y a quelques jours, où c'est un personnage féminin qui est furax contre quelqu'un, et elle s'en va, et donc elle claque la porte, et donc on montre elle qui s'en va, et après on montre la porte juste fermée, et il y a un poster, et le poster, en fait, il s'est décroché, et donc là, elle est vraiment très très énervée. Elle est très énervée dans notre histoire, donc on voulait, si tu veux, tu vois, y arriver, toi, dans cet énervement. Et donc voilà, avec ce poster, on le sent, tu vois, on sent que c'était violent, et on doit, lecteur, s'imaginer ce bruit-là, tu vois, de cette porte. On l'a le son. Enfin, on peut y aller, en tout cas.
Je t'ai coupé, je...
Non, j'allais dire, en plus, on ne fait jamais de porte qui claque, mais effectivement, elle claque. Mais elle est... Mais ouais, peu importe, en fait, elle sort du truc, c'est plus elle qui est énervée
que la porte.
Et je voudrais juste ajouter, donc là vous avez vu dans le dessin qu'en fait il y a des visages, vous en avez vu quelques-uns, c'est parce que ça on a fait donc un livre avec un autre auteur qui s'appelle Bastien Vives, où lui a dessiné les trois personnages et nous on a fait les décors, donc là il y a eu des visages. Et le fait est que maintenant, on travaille sur notre prochain livre, qui s'appelle La technique du périnée, où on utilise maintenant des visages. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des visages pendant genre un truc comme 10 ans, mais maintenant, on en a envie. C'est le nouveau update de notre dessin. Et si tu veux, le dessin, le visage, c'est hyper important parce que ça grave ton style. Et nous, qui donc voulions exprimer notre style sans justement passer par ce visage-là, on se retrouve avec un enjeu assez difficile et dur. Et donc là, on se retrouve en compte à rapprocher la caméra de nos personnages pour justement voilà, essayer de dessiner ces visages. Alors on le fait petit à petit. On n'arrive vraiment pas à mettre des expressions de visage parce qu'on trouve que dès que tu t'écris une expression, c'est beaucoup trop surjoué, tu vois. Donc on reste toujours dans des visages assez neutres et on leur met des lunettes parce qu'on trouve que juste regarder un personnage qui te regarde dans les yeux, c'est toi aussi que tu... Il parle de trop loin, j'ai l'impression de... Il parle de... Presque tu vois son âme, c'est trop, tu vois. On est, donc on est... On fait petit à petit, mais on est en train d'aller un peu plus loin vers une bande dessinée plus classique. Hein.
Vous avez l'impression que ça portera encore plus de... Merci.
Que ça portera encore plus d'émotions et de sens à ce que vous pouvez avoir envie de raconter. Pourquoi vous passez au visage tout d'un coup? Enfin, tout d'un coup, non, puisque vous êtes passé par la grande odalisque où il y avait les visages de Bastien Lives, si je veux
dire. Ouais, c'est aussi dans les structures d'écriture. Au début, on était aussi dans une forme d'écriture où on manipulait les personnages, où on pensait qu'ils étaient pas. On pensait les personnages un peu comme des marionnettes, tu peux leur faire ce que tu veux, tu peux être méchant, etc.
C'est vrai que, je te coupe juste une minute, là, sur les planches, là en plus, elles sont pas. Il n'y a pas beaucoup de définition, on voit pas très bien, mais quand vous regardez les livres de Père Mulot, les postures, c'est ultra précis, quoi. C'est vraiment surprenant, j'ai l'impression que vous passez votre temps à faire des planches d'anatomie parce que c'est vraiment. Enfin, pour le coup, vous venez, quand tu viens de la danse, ça se sent. Et dans votre film, c'est très fort aussi, puisque les gens qui s'agressent, qui surveillent et tout ça, il n'y a qu'un V sur leur visage, mais ça transporte une émotion folle. Donc je me dis qu'avec des visages en plus, est-ce que vous allez oblitérer les corps, par exemple?
Non, pas moins, mais on se rapproche. Enfin, on est plus dans une écriture des pensées ou de ce que vont vivre émotionnellement ces personnages, alors qu'avant, ce n'était pas du tout des enjeux. Enfin, un cas particulier avec Irène et Clochard. Et là, c'est un livre où il y avait un seul personnage qui était tout le temps dans toutes les cases, tellement répété, tellement détaillé.
Quelqu'un vous jetait un œil tout à l'heure, il a c'est toujours le même, et là, elle n'a même pas de cheveux, quoi, la pauvre.
Ouais. On pensait que ce personnage, cette figure, à force de la répéter, de l'avoir marché, de l'avoir comme elle est décrite dans le livre, on est obligé de rentrer en empathie avec elle. Mais ça, c'est possible qu'avec un seul personnage. Dès qu'il y a plusieurs personnages, on se rend compte que c'est pas. Ça s'écrit pas pareil.
Et il y a aussi, c'est le fait d'avoir bossé avec Bastien Vess, où, si tu veux, on se rend compte. Donc, je vous avais décrit le phénomène où, en fait, tu écris les dialogues, tu dessines tes personnages à partir de ces dialogues, et après, tu ajustes. Et en fin de compte, on s'est rendu compte, à des moments, qu'il faut, tu te retrouves avec des visages hyper expressifs, hyper intenses, et que si tu lui mets un dialogue, en fait, tu vas moins le voir, tu vas moins le faire. Alors que si tu enlèves toutes tes bulles et tu mets juste une phrase, et peut-être même dit par quelqu'un d'autre en hors champ, et bien là, tu t'aperçois que tu peux utiliser un visage comme un. Tu peux mettre en valeur tout ce qui est dit dans un visage. Et un visage, si tu veux, c'est vraiment c'est quelques traits. Où tu vois, c'est toujours un peu de la chance, je trouve, quand tu fais un visage. C'est-à-dire que tu fais ton visage, mais en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer dans l'expression de ton personnage? C'est toujours un peu la surprise, quoi. Et donc, t'es encore plus qu'avant, nous, on est obligé, par exemple, de réécrire nos dialogues maintenant qu'on fait les visages. Parce que je te dis, voilà, on doit toujours jouer avec toutes ces sensations et les émotions qui sont sur un visage quand tu t'arrêtes et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il est en train de ressentir, ce personnage?
Ça veut dire que votre scénario, il est très très labile, il est très souple. Si vous évoluez en fonction de ce qui sort de vos plumes, forcément l'histoire bifurque, j'imagine.
Bah, tu crées des intentions, une situation, tout doit Ça, c'est comme c'est écrit, évidemment, mais à un moment donné, comme dit Florent, il y a des fois il y a un accident, en fait, le personnage, tu ne voulais pas qu'il sourit, mais il sourit quand même, tu sais pas pourquoi. Donc tu dis, bah tiens, ça pourrait être intéressant que le personnage, finalement, dans cette scène, il a un petit truc de bonheur, mais très léger, quoi, à la hauteur de son micro-sourire. Donc ça va juste changer sur une mini bulle, ou effectivement, enlever un dialogue, plutôt qu'il répondait à quelqu'un, en fait, on va plutôt garder son sourire. Ça sera plus efficace. Ou plus...
Alors, on se retrouve presque avec des comédiens qui ne sont pas vous, quoi, comme au cinéma. Non.
Mais c'est marrant, parce que c'est toi qui es scénariste, à mon avis, tu dois savoir ça. Si tu veux, nous, on commence notre bande dessinée sans avoir tout écrit, parce qu'on veut savoir qui sont nos personnages, et encore une fois, avant de l'avoir dessiné, tu ne sais pas trop qui c'est ton personnage, tu ne l'as pas vu bouger, tu ne l'as pas vu comment il parlait, etc. Ouais. Et si tu veux... je pense que quand tu écris un scénario, il faut que tu fasses confiance à tes personnages et il faut privilégier qui ils sont et où est-ce qu'eux vont aller dans la logique de qui ils sont, que tu as un peu aussi découvert d'une certaine manière, plutôt que leur faire ce qu'il faut qu'ils fassent, puisque c'est écrit dans ton scénario. C'est que tu dois laisser ton personnage au bout d'un moment, s'il a été dans cette case, il a eu ce petit sourire, ce petit moment tu vois, où tu as vu qu'il y avait un plaisir et tu. Et donc il a du sens, il faut quoi, que tu fasses confiance à ça et te laisser aller guider là-dedans.
Et ça doit même changer la fin d'un livre, puisqu'effectivement, à la fin, on voulait que les deux personnages tombent amoureux. Et alors, on n'y est pas arrivé, quoi. Et c'était déjà possible.
C'est pas sorti l'idée, ça.
Non, pour nous, c'était la fin du livre, genre à Pienne. Et en fait, tu te rends compte qu'ils luttent contre ça, et tu peux pas les forcer à tomber amoureux. Alors que c'était écrit, le scénario, tout tombait, mais... On se dit, bah non, elle est un peu. Elle est vachement plus fuyante que ça. Lui, il est trop. Son dérail. Alors, faut. Ouais, c'est quand même.
Ça vous intéresserait de voir. Non, vas-y, Loïc.
Non, parce que justement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en fait, en tant que scénariste, une BD, ça se fait à deux. Je sais que, par exemple, dans les BD que j'ai écrites, on écrit au fur et à mesure de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que, en général, je travaille sur 10-12 planches que j'envoie au dessinateur. Et après, j'attends qu'il ait dessiné. Et c'est vrai que ça m'est arrivé sur un album, par exemple, où j'ai un personnage qu'il a tellement croqué, j'ai adoré le dessin qu'il a fait, ce personnage, il est revenu. Alors qu'il devait s'arrêter là, il devait disparaître, il était juste intervenu. Tu dis, ah non, le personnage est trop bien, je peux pas le laisser partir comme ça, on va lui réécrire d'autres scènes pour qu'il dure un peu plus longtemps, quoi. Et ça fait partie d'un peu de la magie, de la surprise. Dire, tiens, un dessinateur a pris un personnage qu'il a une super idée, et puis autant profiter, quoi. Et aussi, l'autre réflexion que je peux faire en vous écoutant, c'est vrai que c'est marrant parce que il y a deux choses en fait, sur les bulles et sur les onomatopées en fait. D'abord, c'est une question de rythme. Moi, j'entends beaucoup Arleston quand il bosse sur ses séries, qui dit attention, parce que c'est vrai que Arleston, quand il écrit une BD, il dit toujours je veux pas que ma BD soit lue en un quart d'heure. Donc, des fois, il rajoute des bulles sur certaines cases pour ralentir le temps de lecture. Parce que c'est vrai qu'on a une page sans bulles, sans rien. On a vu sur les deux planches, la première planche là, en couleur, il n'y avait pas de bulles, ça se lisait assez vite, même si on pouvait s'arrêter sur un dessin. Et la deuxième planche, il y avait deux bulles, déjà, ça pose un peu. On prend un peu plus de temps, on regarde l'expression du visage, etc. C'est une façon de ralentir un petit peu le temps de lecture et de s'arrêter sur quelque chose. Et y a, la dernière chose que je voulais dire, c'est sur les onomatopées, par exemple, et sur les bulles, c'est aussi... ce qui est très marrant, c'est que donc, c'est un élément sonore, le texte ou les onomatopées, mais ça devient aussi un élément graphique qui fait partie justement le comics américain, voilà, sur les shbam, les choses comme ça. Ça devient un élément de visuel, graphique et qui fait partie du dessin. Et c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à jouer à ça. Alors, des fois, ça fait très anecdotique, je suis d'accord avec vous. Des fois, les shbam, etc., c'est très bon, il n'y a pas besoin, il n'y a pas nécessaire. Mais sur certains artistes, ils arrivent à rentrer ça dans le dessin. Et après, quand on voit la case, on se dit, ah non, mais le shbam ou le, il est indispensable parce que ça fait partie de la case, ça fait partie du dessin. Donc c'est assez marrant en BD où tout devient graphique en fait. Et moi ce que je trouve passionnant, ce que vous faites, ou même dans la BD, c'est que c'est un art graphique qui a des possibilités mais gigantesques en fait. Et en ce moment en France, on voit justement avec tous les styles différents de qui sont faits, c'est que tout est possible en fait. L'idée c'est d'avoir juste une bonne idée, d'avoir trouvé un éditeur, etc. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites, des cases, pas de cases. J'avais jamais vu BD, mais alors c'est ce système de bulles enchaînées comme ça avec juste de dessins en bas, c'est super intéressant, quoi. Donc on se dit, ah oui, voilà, ça on va à fond dans la BD, quoi. On va à fond dans l'art graphique. Et c'est ça qui est assez passionnant, en fait.
Alors, je voudrais juste. Merci. Donc,
Je vois qu'il est 2h10. Évidemment, on vous engage à dialoguer et tout ça. Bon, j'espère que vous n'avez pas de questions parce que j'ai plus de temps. Ici, je vais quand même en prendre, je sais pas. Si voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que je suis violente comme ça, ça sert à rien. Si, si, attends, je suis très bête. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, je prends les questions. C'est très nul ce que je fais.
Je voulais juste demander, en fait, vous avez dit que vous avez fait des repérages donc au musée pour savoir comment les personnes allaient se déplacer. Est-ce que vous faites la même chose pour les films? Par exemple, un film qui vous plaît, vous allez vraiment faire des captures d'écran pour pouvoir s'en inspirer pour une BD? Est-ce que vous avez vraiment, comment dire, des recherches que vous faites pour, sur d'autres médias comme le cinéma ou pour l'animation, par exemple?
Tu veux dire aller chercher de la documentation dans des films qu'on réinjecterait dans...
Par exemple, vous pensez à une action et vous dites « Ah, j'ai vu dans tel film, il y avait vraiment une séquence qui était très bien montée. »
Dans le genou avec la moto, c'est trop bien, et quand il s'arrête avec le
film. Ouais, c'est ça, un peu ça, ouais.
Il y a un peu de ça, ouais, mais... pas forcément. En fait, jusqu'à un certain point. Comme nous, on a une mise en scène qui est assez, malgré tout, statique, même si on cherche la fluidité de regard. Donc c'est plus vers les vieux films à Charlie Chaplin où le cadre est vraiment posé, les personnages sont en plein pied, il peut y avoir des trucs de circulation comme ça. Après, dans les cinémas d'action, c'est quand même toujours des trucs très dynamiques, avec beaucoup de plans, beaucoup de... Et ça, ouais, c'est plus difficile des fois de... Ça fonctionne, en fait, on se souvient de la scène, mais si on fait image par image et qu'on essaye de décrypter le truc, en fait, c'est assez flou, quoi. C'est pas... on est rentré dans un tunnel d'action, mais...
On n'est jamais allé chercher d'idées dans le film de...
Si tu veux, ce qui est agréable quand tu fais de la bande dessinée, c'est que tu vas essayer de traduire, par exemple, tu vois, tu te dis genre, ah ouais, la moto, il faut qu'elle passe, faut qu'elle remonte cet escalier, et en haut de l'escalier, elle va faire un jump pour après faire un gros virage à 80 degrés et foncer derrière. Quand, par exemple, dans le musée du Louvre. Ce qui est intéressant, le plaisir qu'on a à faire ça, c'est qu'on se dit genre, ah ouais, donc comment on va faire, tu vois? C'est comment on va résoudre ce problème-là d'un point de vue bédéistique. Le cinéma, on en parle énormément, je te disais, on l'utilise dans notre façon de parler, de communiquer ensemble, mais c'est plus, si tu veux, sur des trucs un peu structurels, ou des trucs de personnages, ou des trucs de narration, ou des trucs de narration, d'émotion. Par exemple, tu vois, on va prendre l'exemple de Gladiateur, pour dire, ah tiens, tu vois, Gladiateur, il a niqué sa fin, parce que t'as cette scène avec quand ils sont en train de reconstituer une scène où en fait ils doivent mourir, lui et son groupe de potes, ils doivent mourir, et en fin de compte ils réussissent, en fait ils ne meurent pas, donc ça change un peu, donc ça fout la pagaille, etc. Donc ça, tu vois, c'était une scène, elle est géniale. Il arrive, tu vois, ici de difficulté, on se demande, mais comment ils vont s'en sortir, ils vont normalement la crever parce que c'est ça qui doit se passer. Donc là tu arrives à ce degré de difficulté, et à la fin, quand il se bat contre le personnage César, en fait, qui est habillé en blanc, en fait, c'est un peu tout niqué, parce que tu dis, bah, lui, c'est un gros, il sait se battre, il a fait que ça pendant tout le film, et juste contre César qui se bat jamais, où tu le vois juste faire comme ça de temps en temps, c'est pas normal, le degré de difficulté, il est vachement plus bas, même s'il lui met un couteau, c'est genre, ouais, super, tout ça va, c'est pas... Donc là, nous, on se dit, genre, tu vois ce film-là, si tu as un degré de difficulté comme ça au milieu du film et qu'à la fin, ton gros final, tu as un degré de difficulté vachement plus bas, eh ben, ça marche pas. On va utiliser un exemple comme ça pour se dire, genre, ben nous, tu vois, hein, notre personnage, il est au resto, il se retrouve avec un personnage surprise qu'il pensait pas avoir, ça lui met dans un degré de difficulté pareil. Et ben voilà, à la fin, il faut pas qu'on fasse une scène où il se retrouve à l'opéra et sa meuf, elle dit genre, ouais, ok, je suis d'accord. Je vous dis des trucs qu'on n'est pas très compréhensibles, mais c'est exactement le problème qu'on a en ce moment.
Bah, juste une dernière question, désolé. En fait, est-ce que vous avez des auteurs de BD que vous appréciez particulièrement? Parce que votre style, on a dû vous le lire plein de fois, et puis c'est un peu cliché, mais ça m'a fait un peu penser à Moebius, en fait. Vous auriez des auteurs qui vous font plaisir?
Je crois qu'on ne l'a jamais dit.
Désolé.
Alors, nous, on a des vrais fans, on est très fans de... Enfin, moi, je suis très très fan de Geoff Darrow et de Liberator. C'est vraiment des gens, moi, qui, dans mon adolescence, m'ont fait scotcher. J'ai dit, ah, c'est trop génial, je veux trop faire ça. et c'était leur... Mais d'un point de vue du style, on a eu des influences, on avait Sfar et Trondheim, dans, vraiment qui étaient un peu dans notre dessin, tout ça, on aimait bien ces gens-là, mais on a quand même fait en sorte de les détester pour, si tu veux, les éloigner de notre trait, tu vois, pour laisser la place à notre style à nous. Ça a été un, vraiment des étapes qu'on s'y est pris vraiment de manière méthodique pour, voilà, pour essayer de libérer, voilà, de tous ces mots pour voilà, qu'est-ce que c'est de nous, c'est quoi notre style à nous, c'est qui réparer tu vois. Mais et ça encore une fois ça se fait en les détestant, parce qu'en fait le problème c'est que tu les admires, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc en les détestant, toi ça permet de les laisser partir. Et après quand le champ est libre et allez, tu te sens bien dans ton dessin et dans ton style, là tu peux les re-aimer.
Ok, faut qu'on arrête. Donc je vais juste. Valéna, si tu peux éteindre la lumière sur l'écran, moi je à titre personnel, j'ai ma petite expérience de lectrice de bande dessinée, donc c'est. Un petit hommage à Fred qui a fait de la page quelque chose de complètement inadaptable. Donc ça c'est Marc-Antoine Mathieu et il y a juste deux planches de Fred que tout le monde connaît et moi chaque fois ça me fout des frissons, je trouve ça tellement génial. Voilà, c'est impossible de faire ça au cinéma, c'est un truc de fou. Il paraît que maintenant Fred est décédé, il y a un producteur canadien qui veut faire du Fred au cinéma. Je comprends pas, ça m'échappe totalement. Voilà. Bon bah écoutez, on a terminé avec 2 minutes d'avance, c'est juste génial. Je vous remercie infiniment. Voilà.